Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer au chien l'honneur d'un homme et finalement sa vie au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République, celle qui protège la dignité et la liberté de chacun.
Écrit, je lui dis, oh, c'est peut-être un peu fort. Finalement, j'ai dit, ben non, j'exprime ce que je pense.
La figure politique à laquelle j'ai été confrontée très jeune, c'est le général de Gaulle, dans l'écran de télévision. Mes parents n'étaient pas francophones et ils avaient du mal à comprendre les messages du général quand il s'adressait à la population. Et j'étais appelée par ma mère pour venir traduire ce que je pouvais traduire des messages du général de Gaulle. Ça a été la première rencontre politique et surtout la première conscience qu'une personnalité qui gouverne, cette conscience que le message peut impacter même des parents qui ne comprennent pas forcément la langue, et cet intérêt effectivement pour la parole publique, en fait. Donc ça a été la première rencontre, et je trouvais curieux que mes parents soient curieux de ce qu'allait dire le général. Et j'étais petite, j'avais 6-7 ans, donc je comprenais même pas le sens, mais j'essayais de traduire avec les mots, et c'était à mes parents d'en extraire les messages. Voilà, mais en réalité, dans la famille, même si... Alors, qu'est-ce qu'on entend par politique? Parce que politique, est-ce que c'est se questionner sur la société, les enjeux, les problèmes économiques qui touchent la famille, par exemple? Oui, ça, c'est de la politique, et ce sont des sujets qui ont été abordés dans la famille. Je suis issue d'une famille avec 11 enfants, et c'est vrai que la gestion d'une micro-société qu'est la famille, c'est déjà une prise de responsabilité, et donc... une manière de gérer le quotidien. Donc ça aussi, pour moi, ça fait référence aussi à la politique, parce que on s'inscrit dans la société et on se positionne par rapport à ce qui s'y passe. Donc voilà, les préoccupations du quotidien, j'y ai été confrontée très jeune. Mais pas un engagement tel qu'on l'entend aujourd'hui, en fait. C'est plus une conscience et des convictions qui se sont forgées à l'observation de la manière dont mes parents élevaient leurs 11 enfants et la place qui était la mienne dans cette fratrie, surtout. Je suis la cinquième parmi les 11, la première parmi les 11 à être née en France, donc née française. Et donc cette transmission, cette solidarité intrafamiliale, la transmission aussi vers mes frères et sœurs, mon frère et mes sœurs les plus jeunes, a été quelque chose qui a fondé ma vision finalement de... qui a fondé mes convictions, voilà, cette question de solidarité et d'entraide. Alors, évidemment, mon choix après était de faire médecine, parce que, quelque part, j'ai été un peu prédestinée à faire médecine. Ça m'intéressait, mais c'est vrai qu'on me l'a inculqué très jeune. Pour des parents comme les miens, l'ascenseur social se traduisait par des métiers très emblématiques. On devenait docteur quand on travaillait bien à l'école. Et donc, ma mère a mis l'éducation... comme une priorité dans la manière d'élever ses enfants. L'école était vraiment la priorité. L'éducation familiale, l'éducation scolaire, tout autour, tout, tournait autour de cela, parce que la conviction du parent, c'était qu'on ne pouvait gravir l'échelle sociale qu'avec de l'éducation et de la connaissance. Donc c'était vraiment quelque chose d'extrêmement rigoureux chez moi, dans ma famille.
Qui s'est traduit également chez vos frères et sœurs ?
Oui, absolument. On a tous fait, pratiquement tous fait des études supérieures, oui. Les 11, sauf une grande sœur qui s'est mariée jeune, et un frère qui n'a pas voulu écouter mes parents, mais qui a repris ses études, marié et père de 4 enfants. Donc voilà, on y revient quand même. Mais tout le monde a fait des études.
Et alors, vous faites ce choix au moment de partir étudier médecine, de retourner en Algérie à Oran. Pourquoi ce choix ? Pourquoi les facultés de Lyon sont excellentes en médecine ? Pourquoi avoir fait ce choix-ci et d'être resté un petit peu, puisque vous êtes resté quand même un certain nombre d'années là-bas ?
Vous savez, quand vous êtes né français, de parents qui transmettent une culture algérienne, une langue arabe, beaucoup de questions agitent votre cerveau, et c'est surtout la vraie question, c'est qui on est vraiment. C'est comment on construit sa propre identité à partir d'un héritage familial et de ce qu'on acquiert de par la société, de par aussi l'école de la République. Donc je pense qu'à un moment donné, j'ai souhaité me confronter à la société d'origine de mes parents. Je me suis dit que ça allait me déterminer d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que je ne le regrette pas aujourd'hui, parce que j'y ai vécu 5 ans. Et pendant 5 ans, j'ai évolué en tant qu'étudiante. J'ai été confrontée à la vraie vie et au vrai quotidien des Algériens là-bas. Et je me suis rendu compte que finalement, mes références mes repères étaient français. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me déterminer comme citoyenne française, surtout quand on sait que mon père est arrivé en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais mes parents n'avaient pas été à l'école, n'avaient pas été éduqués. Et donc cette transmission, elle était basée sur de l'oralité, sur des traditions aussi. Et donc, à un moment donné, il y a une sorte de confrontation. Et c'est bien d'y aller, de voir ce que c'est vraiment et de faire le tri dans sa tête. Et voilà, c'est comme ça que j'ai souhaité revenir là, le pays de mes racines culturelles aussi, parce que je suis née à Lyon et j'ai grandi ici, ce qui fait que c'est devenu mes racines. Et je me suis assumée comme citoyenne française à part entière.
Et alors justement, comment est-ce que cette trajectoire biographique qui vous est propre vous a influencé dans le choix de votre affiliation partisane, puisqu'après tout, vous racontiez avoir traduit le général de Gaulle à vos parents dans vos plus jeunes années, mais il aurait pu se passer plein d'autres choses durant votre adolescence, votre âge adulte, la découverte d'autres tendances politiques qui auraient pu vous intéresser, qui peut-être vous ont intéressé. Pourquoi avoir fait ce choix, une fois adulte, avec le recul et une connaissance arrivant peu à peu sur votre vécu, fait ce choix justement de retourner à une droite républicaine qui, nous le mentionnions au tout début de cet entretien, peut apparaître un petit peu surprenant ? Comment est-ce que vous avez élaboré le discours sur votre engagement et ce choix-là que vous avez fait ?
En réalité, mon engagement politique s'illustre depuis quelques années, mais ça a été aussi un certain nombre de questionnements durant ma vie. La première fois que j'ai voté, c'est quand j'ai eu 18 ans, et c'était l'élection présidentielle, ma première élection de 81. Et là, j'ai voté François Mitterrand. J'ai voté Mitterrand en 81 parce que j'ai cru dans un discours très utopique, cette vente de rêve finalement très chère à la gauche et qui se traduit finalement par peu de propositions concrètes pour essayer de rendre ce rêve une réalité. La question de l'égalité des chances, la question de... Tout ça, finalement, est une vaste manipulation dont j'ai pris conscience très vite, en réalité. Mais pour autant, je n'avais pas d'engagement politique réel. Je vous l'ai dit, mes convictions se sont forgées avec mon expérience de vie. Donc le vote pour François Mitterrand a été quelque part une certaine gifle. Et j'ai compris ensuite, j'ai mieux compris la déception qu'on pouvait avoir lorsqu'on accorde une confiance dans une personne qui ne remplit pas ses engagements. Non, alors ensuite, moi, mon engagement s'est révélé bien plus tard parce que en 2001, le maire de Neuville-sur-Saône m'a demandé d'être sur sa liste, mais je n'étais pas engagée politique. J'étais encore médecin, hospitalière, je travaillais, j'avais mes deux enfants et je n'avais pas beaucoup de temps à consacrer justement à la vie municipale, mais le maire n'avait pas d'exigence. Il voulait que je sois bien solidaire, évidemment, de son équipe municipale, mais j'avais été claire avec lui, il avait été clair avec moi. Donc, ce n'était pas vraiment un engagement politique à ce moment-là. C'est quelques années après, quand on m'a proposé d'aller plus loin, d'être sur une liste régionale, européenne, où là, je me suis vraiment posé la question si c'était vraiment cette famille politique-là à laquelle je devais rejoindre. Et finalement, ce qui m'a décidé, c'est... Parce que le maire, à ce moment-là, ne m'avait laissé libre choix de mes appartenances politiques. Ce n'était pas ça qui l'intéressait, mais c'était plutôt mon profil et ce que je représentais. À droite, pourquoi ? Parce que la méritocratie, ça a du sens pour moi. On mérite ce qu'on cultive. La question de l'autorité, la question de l'ordre... la question de l'égalité réelle aussi. Toutes ces valeurs-là me ramènent finalement à l'idéologie de droite.
Alors, quand vous dites justement égalité réelle, qu'est-ce que vous entendez par ça ? Puisqu'on sent en fait, on sent à la fois, si vous voulez, dans vos influences qui vous ont conduit à une vision politique, à une affiliation avant l'engagement sur lequel nous allons revenir, à la fois une influence évidemment des parents, sur les valeurs d'autorité et d'ordre qui s'expliquent évidemment par le parcours de vos parents. Mais lorsque vous parlez d'égalité réelle, on a plus l'impression que c'est justement une sorte de découverte biographique, c'est-à-dire au fur et à mesure que le temps passe, vous êtes forgé cette conviction-là. Et qu'est-ce que vous entendez par là ?
Il y a un mot qui est revenu beaucoup dans les slogans politiques, hein, lutter contre l'assistanat. Et j'observe comme responsable politique qu'à gauche, c'est tout ce qu'on promet aux gens. On leur redistribue de l'argent, mais on ne les aide pas à se sortir de situations précaires. On ne les aide pas à retrouver de la dignité. Et ma conviction, c'est que il faut être solidaire des personnes dans la précarité. Il faut être solidaire des gens qui sont nécessiteux. Mais respecter la dignité des gens, c'est aussi leur donner des outils pour qu'ils puissent s'en sortir. Et que bénéficier de la solidarité nationale doit être quelque chose qui doit être un passage, mais ça ne doit pas être une finalité. Et je regrette qu'à gauche, au Parti socialiste ou à gauche, la redistribution est quelque part comme une certaine fatalité. Et qu'on est bien content d'avoir fait sa bonne action en redistribuant, mais on n'a pas rendu la dignité aux gens pour qu'ils puissent sortir justement d'une situation vulnérable, difficile. Donc donner les outils, donner des clés aux gens, c'est ça l'égalité réelle. Ce n'est pas pérenniser un système où ceux qui s'en sortent, ceux qui ont les réseaux, ceux qui accèdent à des grandes études, ceux qui s'installent dans cette société comme des acteurs qui produisent de la richesse au quotidien, eh bien une société où on retrouve ces gens-là et une société qui finalement est assistée, qui attend que la redistribution s'opère selon une logique verticale. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Ce n'est pas ma vision de la société. Ma vision de la société, c'est une vision où chacun peut avoir sa chance, qu'on soit issu d'une famille qui a les moyens ou d'une famille qui n'a pas les moyens, grâce à l'école, grâce à l'éducation, qu'on puisse tous accéder à sa place, finalement, pour être tous acteurs de cette société, ensemble. quelles que soient les origines, quelle que soit d'ailleurs la religion, quel que soit le niveau social de départ.
Pour prendre un exemple, quelle différence entre le discours que vous tenez et par exemple celui qu'on a pu entendre par une partie de la gauche au moment des réformes sur l'éducation nationale, donc les réformes qui ont agité il y a 2 ans maintenant les collèges, avec la suppression des classes par exemple d'allemand. Comment vous positionnez? On a entendu ce discours justement de donner des outils, que les outils qui sont, par exemple, pour se prendre le cas présent, fournis actuellement, ne sont pas accessibles à des personnes qui n'ont pas le capital culturel parce qu'il n'est pas transmis de manière familiale, et que donc leur proposer des outils qu'ils ne peuvent pas utiliser, c'est simplement leur faire une violence symbolique supplémentaire pour leur montrer qu'ils ne peuvent pas l'utiliser. C'est évidemment une simplification outrancière ici.
Oui.
Mais comment. Enfin, il y a quand même cette sensation, cette intuition plutôt, je dirais, derrière.
Est-ce que vous croyez vraiment que parce qu'on est issu d'un milieu modeste, on n'a pas les capacités d'acquérir les connaissances? Qu'est-ce que c'est que ce constat? Qu'est-ce que c'est que cette condescendance? Ce n'est pas le milieu social qui prive l'aptitude des enfants à apprendre. C'est le mode d'éducation. C'est la manière dont on accompagne les enfants.
Nul propos sur les aptitudes, c'est plutôt le goût. Par exemple, si on prend toute une tradition de la sociologie, chez Bourdieu, la question c'est celle du goût et du dégoût, et qui justement suit un déterminisme social et non pas l'aptitude comme si intellectuelle. Ce n'est
absolument
pas de ça dont il s'agit.
Okay.
Et donc c'est normalement comme ça qu'une tradition intellectuelle de gauche justifie qu'on prenne des mesures en ce sens-là.
Voilà. Pour moi, c'est un nivellement vers le bas. Je pense que des personnes dans des quartiers difficiles ou issues de milieux défavorisés ou modestes doivent pouvoir, c'est ça l'égalité républicaine, doivent pouvoir choisir, doivent pouvoir avoir le choix. Est-ce que on parle beaucoup de territoire de non-droit quand il s'agit de la petite délinquance, mais est-ce que ce n'est pas aussi un territoire de non-droit dont la République serait l'auteur, que de priver ces territoires justement des mêmes modalités d'enseignement? Et c'est ça, moi, c'est sur ces choses-là que je suis en rupture avec l'idéologie de gauche. L'école est là pour ça, bien sûr, mais pour ça, il faut restaurer de l'autorité. Finalement, tout se tient. Donc, c'est les maillons d'une seule même chaîne, en réalité. L'autorité, si elle est dans la famille, si elle est dans l'école, si elle est dans la société, permettre de proposer un cadre à tout enfant. Et vous savez, un enfant qui soit dans un milieu favorisé ou défavorisé, s'il n'y a pas de cadre, ça conduit aux mêmes échecs, même s'il y a une transmission familiale. Donc pour moi, le point de départ, c'est l'autorité, c'est le respect. À partir de là, les enfants savent leurs limites, savent qu'ils doivent travailler, parce que sinon, ils n'accèdent à rien. C'est la valeur du travail aussi qu'on doit leur transmettre. Si ceci est mis en œuvre réellement, il n'y a aucune raison qu'on ne propose pas partout sur le territoire national les mêmes propositions. Et pour moi, vraiment priver certains territoires sur des a priori, sur des préjugés, c'est pour moi faire insulte finalement à une partie de la société française.
Revenons peut-être un peu à présent sur votre parcours, puisque vous décidez, à la suite de ce que vous nous exposiez précédemment, d'entrer en politique et véritablement de vous investir. Comment se passe justement votre ascension locale, puisque vous nous dites vous-même ne pas avoir de carrière politique avant vous, ne pas avoir de réseau politique avant cette proposition d'être sur les listes municipales. Comment est-ce qu'on fait concrètement quand on se dit c'est quelque chose qui m'intéresse, j'ai envie de m'investir là-dedans? Comment est-ce qu'on s'assoit localement, progressivement?
En vérité, c'est très difficile. J'ai eu beaucoup de chance, question de rencontre, en tout cas me concernant. En fait, ma vraie entrée en politique, c'était en 2008, lorsque Dominique Perben m'a demandé de conduire la liste du 8e arrondissement. C'est ma première campagne, 2008. Donc c'est là où je me suis vraiment engagée. Donc c'était les municipales de Lyon. Je me suis engagée corps et âme à ce moment-là. Et puis j'ai poursuivi en 2009 pour les européennes. J'ai été élue et nommée au gouvernement tout de suite après. Donc là, je dirais que c'est une question de rencontre et donc de chance, parce que évidemment, les rencontres se font un peu. Certains diront prédestinées, mais non, c'est voilà, il y a des personnes qui m'ont permis de progresser. Mais quand on ne fait pas les bonnes rencontres, on peut ramer longtemps, 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 parce que le système politique, c'est un système un peu autarcique. Où ça fonctionne à l'image de la société d'ailleurs, ça fonctionne beaucoup par réseau, il y a une légitimité, soit on est héritier, parce qu'on est des descendants de personnalités politiques, soit on est coopté, et donc protégé, propulsé par des personnes qui tiennent à vous voir progresser en politique. Mais c'est très difficile, en réalité, pour quelqu'un qui n'a pas les bons relais de pouvoir progresser, parce que malheureusement c'est assez fermé. Et les partis politiques, d'ailleurs, c'est ce qui leur est reproché. Les partis politiques méritent de s'ouvrir à la société civile, parce que les partis doivent aller chercher les talents pour qu'il y ait une respiration démocratique, parce que si on propose toujours les mêmes personnalités, les mêmes profils, il y a peu de diversité aussi dans l'exercice politique. Donc il faut oxygéner la vie politique, il faut ouvrir aux jeunes, il faut ouvrir à la société civile, il faut voilà, diversifier les parcours, diversifier... il faut que ce soit à l'image de la société, en vérité. Quand vous regardez l'Assemblée nationale, malheureusement, vous dites, c'est pas vraiment ça la France. La majorité sont des professions libérales ou des fonctionnaires. Donc, il y a quelque chose qui pêche là-dedans.
Et alors, par exemple, comment jugeriez-vous, pendant longtemps, l'importance qu'a eu les personnes issues de la haute administration, sur l'influence qu'ont eu les gens issus de la haute administration sur la vie politique française? Est-ce que vous pensez que c'est un monopole qui est appelé à disparaître ou que vous aimeriez voir s'affaiblir, on va dire, sans aller jusqu'à disparaître? Ou est-ce qu'au contraire, l'exigence démocratique du concours, puisque vous accordez énormément de valeur au travail, peut apparaître comme justement quelque chose qui peut donner des clés à des gens qui n'ont pas de réseau, mais qui ont une capacité de travail, de s'investir sur des sujets, les moyens institutionnels de réussir.
C'est une question très intéressante, mais on est un peu dans l'absolu, en vérité, parce que passer des concours, il faut avoir la possibilité de les passer. Et tout le monde n'a pas la chance de pouvoir accéder au niveau. Quand on parlait tout à l'heure de l'école, elle ne forme pas de la même manière partout les enfants. Et déjà, on crée une différence dans l'acquisition des savoirs et de la connaissance. Donc on n'est pas au même niveau déjà pour passer les concours. Ensuite, est-ce que cela est réservé à l'élite? Non, parce que ça voudrait dire que la politique, qui est un exercice démocratique, serait réservée à l'élite française. Mais là aussi, on créerait encore une France à deux vitesses, entre ceux qui méritent de gouverner, ceux qui méritent de représenter le peuple, mais un peuple qui serait sous-représenté par définition. Puisqu'une élite n'a pas la vocation, par essence, n'est pas représentative du peuple. Donc au contraire, puisque nous sommes dans une logique démocratique, donc cette logique démocratique, c'est-à-dire le choix du peuple, il faut que le peuple puisse se reconnaître dans ses représentants. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Et donc si vous nous proposez comme candidat que des personnes issues de la haute fonction publique, on assiste à ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire à une sorte d'incompréhension. D'incompréhension, de déception, de clivage entre la France... Regardez le terme France d'en bas et France d'en haut. C'est quelque chose qui est insupportable dans un pays comme la France, un pays qui est le pays des droits de l'homme. Donc on va à l'inverse, c'est-à-dire qu'on aurait une certaine monarchie républicaine avec des privilèges. C'est comme ça que le peuple perçoit finalement le personnel politique. Et il faut rompre avec ça. Je pense que le rendez-vous Nous y sommes. On est en train, dans cette vie politique. 2017 est une année assez très particulière en ce sens. On n'a jamais vu une élection présidentielle se dérouler de la sorte. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui s'opère, on change de paradigme, et que les logiques qui ont prévalu jusqu'à aujourd'hui sont en totale déliquescence, et que les peuples aspirent à autre chose, à être beaucoup plus représentés, avec des élus plus proches d'eux, qui leur ressemblent davantage.
Et vous pensez que votre famille politique aujourd'hui est à même d'apporter cette aspiration de changement que vous semblez rencontrer parmi les gens que vous croisez?
En tout cas, même si on n'est pas au bout du processus, il faut l'engager et accélérer le mouvement. Lorsque Nicolas Sarkozy a repris le parti, il a remodelé ce parti en l'ouvrant à la société civile. Donc j'ai participé à de nombreuses conventions, je suis moi-même secrétaire nationale, membre du bureau politique national, et j'ai bien vu qu'une place avait été laissée aux gens qui n'avaient pas forcément un parcours d'élu et qui étaient des professionnels dans la vie civile. Donc oui, on a amorcé quelque chose. Mais il faut aller plus loin dans les investitures aux élections, dans la constitution des listes également. Quand on regarde la dernière liste des élections régionales ici en Auvergne-Rhône-Alpes, on voit bien que sur la liste, il n'y a pas uniquement des gens qui ont été élus précédemment. Donc oui, on commence, mais il faut aller plus loin. Je pense que la question du non-cumul des mandats va permettre justement de diversifier aussi ce personnel politique, puisque on sera obligé d'aller chercher d'autres talents. Et donc ça, c'est quelque chose de vertueux.
Alors, vous mentionniez Nicolas Sarkozy, personne qui a joué aussi avec Dominique Perben un rôle important dans votre carrière personnelle. Est-ce que vous pourriez peut-être nous parler justement de comment s'est passée cette rencontre? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous avez été justement appelé à aller à une expérience de ministère, en fait, donc à la fois en tant que secrétaire d'État aux aînés et ensuite secrétaire d'État à la santé? Comment est-ce que ça s'est passé?
Lorsque j'ai conduit la liste du 8e arrondissement pour Dominique Perben, Dominique Perben m'a demandé de le représenter à un déjeuner invité de Nicolas Sarkozy. Donc ce déjeuner s'est déroulé à Paris et Nicolas Sarkozy souhaitait réunir quelques candidats qui étaient confrontés à des maires de gauche sortants. Donc c'était une manière de les encourager. Et donc j'avais représenté Dominique Perben à ce moment-là. Donc c'était ma première rencontre avec Nicolas Sarkozy. Ensuite, il est venu à quelques reprises dans le sud-est, dans la région, donc je l'avais recroisé. Mais surtout, lorsque j'ai été élu député européen le 7 juin 2009, nous nous sommes retrouvés à l'Élysée. Il avait invité tous les élus européens. Donc il était fraîchement élu président de la République et il nous avait donné des consignes, des conseils pour que la France ait une parole qui porte au niveau des institutions européennes. Donc on avait pris bonne note de tous ces conseils, notre assiduité, notre engagement sur nos dossiers, enfin voilà, des choses que tout chef de majorité prodigue aux gens qui travaillaient autour de lui. Donc là, je l'avais rencontré une nouvelle fois, et c'est vrai que 15 jours après, lorsqu'il y a eu un remaniement, bon, il a pensé à me nommer, et pour moi, ça a été une grande chance et un grand honneur. Et une belle fierté aussi de servir le pays.
Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui de faire carrière en politique, justement? Nous avons vu que vous ne le faisiez pas avant, puisque vous arrivez tard à la suite d'une vie professionnelle antérieure, donc en tant que médecin. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous ne changez pas, en fait, vous ne troquez pas presque, pour être un petit peu provocateur, une profession pour une autre, appelons-la ainsi, de femme politique?
Alors, en réalité, on m'a souvent demandé qu'est-ce qui finalement lie la médecine et puis la politique. Quelle logique? Il y a une logique, c'est qu'on s'occupe des autres. Donc il y a quelque chose de ce style-là qui fait qu'on est à l'écoute. On est à l'écoute et à la recherche de solutions. Alors bien sûr, quand il s'agit des patients, on fait tout pour qu'ils aillent mieux, qu'ils aient un mieux-être, une bonne santé. Quand on fait de la politique, en tout cas c'est ma vision de faire de la politique, c'est aussi d'apporter du mieux, de travailler un projet de société, une société plus apaisée, où chacun trouve sa place, où on redonne de la dignité aux gens, où on travaille pour créer les conditions justement pour lutter contre la pauvreté, la précarité, enfin voilà, tout ça, la solidarité aussi, les questions de santé, bien sûr. Donc il y a une certaine logique. Alors ensuite, oui, j'ai travaillé 20 ans comme médecin à l'hôpital et pour l'industrie, mais ma carrière politique, si on peut parler de carrière, elle a moins de 10 ans. Je vous le disais, ça fait 2008 et on est en 2017. Ça fait moins de 10 ans que je suis vraiment dans l'engagement politique. Pour moi, c'est une nouvelle séquence. Aujourd'hui, je suis candidate aux législatives. J'espère être élue. Je fais tout pour. Enfin, en tout cas, j'y vais pour gagner. Si je suis élue députée à l'Assemblée nationale, évidemment, je poursuivrai et je le ferai avec autant d'engagement et autant de conviction. Après, la limite à l'exercice politique, c'est la limite que le peuple voudra donner. Hein. Si je ne suis pas réélue, eh bien, ça marquera plus tard, ça marquera si le peuple veut plus de vous quelque part. Bah, c'est ça qui crée la fin d'une carrière politique de tout un chacun. Donc, mais moi, je réfléchis pas comme ça en fait. J'ai la chance aujourd'hui de me consacrer à un territoire, ici à Lyon, à la région bien sûr, demain j'espère pour notre circonscription, la troisième circonscription du Rhône. Voilà, pour moi c'est un engagement, je ne peux pas parler de carrière, c'est pas une carrière, c'est une... on est quelque part missionné par le peuple, puisqu'on est élu par lui. On nous confie une mission. C'est comme ça que je vois les choses. Le peuple nous confie une mission qu'on doit honorer. Après, bien sûr, si le peuple ne veut plus de vous, ben, il faut en tirer les conséquences.